Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahumma inna nes'aluka ilmen nafi'an ve rizqan tayyiban ve amelen mutakabbalan. Ya muqallibal kulub, sabbit kulubana ala dinik ama ba'd. Assalamu alaikum rahmatullahi ve barakatuhu. A toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ramadan mubarak. J'espère que vous avez bien commencé Ramadan. La première nuit de Ramadan est très importante. C'est la nuit où Allah pose son regard sur la Ummah. Et s'il pose son regard sur l'un d'entre nous, il le pardonne, subhanallah. Donc c'est vraiment la première nuit, c'est là où on essaye du mieux qu'on peut d'être présent avec Allah. À travers les ibadat, à travers l'aide que l'on peut apporter à la communauté. Si certaines personnes ne peuvent pas jeûner pour une raison ou pour une autre, ou ne peuvent pas prier, là aussi elles peuvent être présentes en, par exemple, aidant les autres membres de la communauté à faire leur ibadat, soit en gardant les enfants d'une telle, si par exemple elle veut aller prier le tarawih, à préparer le sahour pour certaines personnes. À s'occuper d'enfants, à prendre les responsabilités de certaines personnes, etc. Il y a tellement de choses que l'on peut faire qui peuvent nous rapprocher d'Allah. Ensuite, Ramadan est divisé en trois parties. Donc les 10 premiers jours, c'est la rahma qui descend. Les 10 jours d'après, c'est le pardon. Et à la fin, les 10 derniers jours, c'est le salut et Allah sort des âmes du feu. Subhanallah. Donc chaque 10 jours a ses bénéfices, a des bénéfices particuliers. Donc en l'occurrence, la khutba du jour porte sur la routine du Qur'an et des dhaskars. Ramadan est une excellente opportunité pour instaurer une routine de Qur'an et dhaskars. Que l'on peut ensuite garder après. Alors tout d'abord, Azkar est le pluriel de Dhikr. Pour ceux qui font de l'arabe, c'est un jamar taksir, un pluriel brisé. La forme c'est Fi'loun Af'al, Dhikroun Azkar, qui signifie invocation de Dieu, répétition du nom de Dieu, récitation de versets coraniques. Et d'une manière générale, c'est parler d'Allah, en fait, c'est se souvenir d'Allah, c'est d'avoir Allah en tête et de faire tout ce que l'on peut faire pour Allah et pour nous rapprocher d'Allah. Donc c'est du dhikr. Le premier dhikr est bien entendu le Qur'an al-Karim. Et ensuite, comme je l'ai dit, ce sont aussi les répétitions du nom d'Allah et tout ce qui tourne autour d'Allah. Alors le dhikr est extrêmement important dans la vie du musulman. Pourquoi? Parce qu'il apporte de la lumière, de la protection, des bénédictions, des hasanat, de bonnes actions. À chaque fois qu'on fait du dhikr, on accumule en fait une récompense. Ça apporte aussi la baraka dans le rizq. Et quand je parle du rizq, je ne parle pas seulement de l'argent en fait. Le rizq, c'est... Ça englobe énormément de choses en fait. Ça englobe ce que la personne possède a dans cette dunya. C'est-à-dire le risque, ça peut être le temps. Avoir par exemple des barakas dans son temps. Le temps fait partie du risque. L'argent bien sûr, le matériel, les amis c'est du risque. La famille c'est du risque. Les gens qui nous aident, le fait qu'on ait... qu'on ait une certaine intelligence ou que l'on ait des capacités à mémoriser ou à apprendre, c'est aussi du risque. Enfin, le risque englobe tout ce qu'Allah nous donne en fait. Et c'est pas seulement de l'argent, c'est un tout. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, ont une très bonne famille, machallah, et ils s'entendent avec pratiquement tout le monde, ils sont très soudés et tout ça, c'est du risque. Et ce risque-là, ce n'est pas forcément ce qu'un autre va avoir. Peut-être qu'une autre personne va rien avoir de tout ça. Elle va avoir des difficultés avec sa famille. Par contre, elle va avoir du... Allah va lui donner beaucoup de choses dans une autre catégorie. Donc son risque à cette personne sera différent. Donc c'est ça que ça veut dire. Et de faire du dhikr, de réciter le Coran, de dire le nom d'Allah, déjà ça purifie la bouche, ça purifie la langue. Mais ça apporte aussi tout ce que je viens de mentionner. Alors pour commencer, le matin quand on se réveille, on commence par un doigt. Donc il y a plusieurs doigts qui ont été mentionnés, mais j'ai mentionné celui que je connais, que j'utilise. Et celui qui en général revient régulièrement, c'est Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Louange à Allah qui nous a rendu la vie après nous avoir fait mourir, et c'est vers lui la résurrection. Vous pouvez bien sûr trouver ce doigt dans la citadelle du musulman et dans les livres de doigt en général. Donc il est très important de dire ce doigt dès qu'on se réveille. C'est vraiment la première chose à faire quand on se réveille. Ensuite, on fait ses ablutions et l'idéal, c'est de se préparer pour le tahajjud, la prière surérogatoire avant le fajr, avant le temps du fajr. L'idéal, c'est de prier, de faire des doigts. C'est vraiment le meilleur moment pour lire le Coran. Enfin, c'est vraiment un temps très particulier où Allah répond aux doigts spécifiquement. Même si c'est 2 raka'a, enfin, même si la personne ne peut pas vraiment faire beaucoup, c'est essentiel vraiment d'avoir une routine à ce niveau-là. Il faut savoir aussi que dans certains madhahib, dont le madhahib de l'imam Shafi'i, on peut lire le Coran dans sa prière. C'est-à-dire qu'on peut avoir le mushaf, le livre du Coran. On peut le porter et ensuite l'ouvrir et lire dans sa prière. Après, bien sûr, il faut faire attention à ne pas faire plus de 2 gestes. Enfin, il ne faut pas faire 3 gestes consécutifs rapides, sinon ça invalide la prière dans ce madhhab. Mais si on fait doucement, on attend entre chaque geste, il n'y a aucun problème. Je sais que dans certains madhhab, ce n'est pas utilisé de lire le Coran. Dans la prière, mais ça c'est à voir avec le mazhab de fiqh que l'on a. Donc si la personne peut lire le mushaf, peut lire le Coran dans sa prière, au moins elle peut faire les deux en même temps. Elle n'a pas à par exemple prier et ensuite obligatoirement s'asseoir pour lire le Coran. Non, elle peut faire les deux en même temps. Après, les personnes qui ne peuvent pas se réveiller pour le tahajjud. Elles peuvent, bah, dans ce cas-là, elles font leurs ablutions pour prier le fajr. Et l'idéal, là, c'est aussi de réciter le Coran, un peu de Coran après le fajr, avant les adhkars du fajr. Donc, il y a des adhkars spécifiques pour tout au long de la journée, en réalité, mais les principales, en fait, c'est celles après le fajr et celles après le maghrib. Parce que c'est l'alternance du jour et de la nuit. Et c'est là qu'on a le plus besoin de protection et de mentionner le nom d'Allah. Et de faire plus de ibadat. Donc les dhaskars après le fajr sont primordiales. Parce qu'encore une fois, ces dhaskars-là nous protègent. Elles nous protègent des djinns, elles nous protègent des shayatins, elles nous protègent des mauvaises choses d'une manière générale, du mal des gens. Elles peuvent nous protéger des calamités aussi, subhanallah. Elles peuvent nous protéger de beaucoup de choses. Donc, on est censé se protéger parce qu'il y a d'autres mondes, en fait, autour de nous. Nous, on ne les voit pas. On ne les voit pas forcément. On n'y a pas forcément accès. Mais les autres créatures qui sont dans ces mondes, elles entrent dans notre monde. Il faut aussi faire attention. Après, dans la vie de l'être humain, de toute façon, il y a toujours des choses qui se passent. Il y a toujours des problèmes ici et là, donc on a besoin de protection de manière générale. Alors après le fajr, donc si la personne par exemple ne peut pas se réveiller pour le tahajjud, elle récite le Coran après le fajr, avant de faire les adhkars par exemple. C'est bien d'avoir une routine de lire le Coran, même si c'est peu, mais c'est très important de se connecter au Coran. Donc les adhkars après le fajr, il y a le choix. Hein. Moi, je vais mentionner ce que j'ai appris quand j'étais à Tarim, mais il y a bien sûr la citadelle du musulman pour ceux qui préfèrent, parce que peut-être c'est plus simple, c'est moins long. Mais voilà, dans la citadelle du musulman, de toute façon, si vous allez dans le sommaire, vous allez voir qu'il y a les adhkars après le fajr et les adhkars après le maghrib. Donc vous pouvez aussi suivre là. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est après le fajr, on récite le Wirdul Latif. que vous pouvez trouver sur YouTube, sur SoundCloud. Il est disponible partout. Et aussi, on récite Sourate Yassine. Sourate Yassine est le cœur du Coran. Il y a énormément de secrets qui tournent autour de Sourate Yassine parce qu'elle revient dans toutes les cultures, dans tous les groupes. Enfin, c'est une sourate qui est récitée aussi sur les défunts. Et il est dit qu'il faut dès que la personne, si la personne a un problème ou elle a un besoin, qu'elle récite Yassine. Donc c'est bien de mettre autant d'intentions possibles quand on récite Yassine pour voilà pour avoir pour que cette sourate nous apporte ce que nous avons envie. Bien sûr, c'est Allah qui nous apporte ce que nous avons besoin, mais on passe toujours par des moyens. Et Sourate Yassine est connue pour être une ouverture. Ensuite, il est important de développer une relation vivante avec le Coran. De par exemple lire constamment le Coran, c'est-à-dire ne faire toujours une lecture continue, le commencer, le finir, même si c'est sur plusieurs mois, le commencer, le finir et reprendre. Commencer, voilà, tous. Parce qu'après, on a la récompense, en fait, de faire une lecture continue, en fait, d'avoir toute sa vie, lit le Coran, subhanallah. On peut aussi lire ses sourates préférées régulièrement, avoir une intention spéciale. Si l'on récite une sourate qui porte notre nom, par exemple, comme Isra, Maria, Mohamed et d'autres, il y a, voilà, on crée une relation spéciale. Chacun devrait avoir des sourates préférées. Chacun devrait faire des doigts particuliers à un tel moment, durant la récitation par exemple. Quand il y a des sourates en fait qui ont une histoire particulière, c'est bien aussi de faire des doigts ou de la réciter à un moment particulier de sa vie qui ressemble à l'histoire de la sourate par exemple. La sourate Al-Fatah, qui veut dire la victoire ou l'ouverture. Elle a été récitée pour le traité de Hudaybiyah. Et Allah dit clairement dans cette sourate qu'il a donné le tawfiq. En fait, il a donné le succès aux musulmans. Mais les musulmans, ils n'ont pas compris en fait pourquoi, sur le coup, parce que le traité de Hudaybiyah était vraiment tout. Mais tout, hormis être en leur faveur. Enfin, c'était tout contre eux, en fait. Donc, ils ne comprenaient pas pourquoi Allah disait ça. Mais quelques temps après, subhanallah, il s'est avéré qu'effectivement, le traité de Hudaybiyah était en leur faveur et non pas en faveur de Quraysh. Parce que, comme on l'a vu, Quraysh, après, a rompu le contrat, le traité, d'une manière qui ne serait pas due. Donc ça s'est retourné contre eux. Donc subhanallah, al-fatah, l'ouverture, la victoire, on peut aussi la réciter si on a besoin d'une ouverture, si on a besoin voilà du tawfiq. Donc ça, c'est une chose. Il y a aussi suratul baqara, il y a un hadith qui dit que celui qui la récite tous les jours, le shaitan n'entre pas chez lui. C'est aussi une sourate qui est connue pour protéger de la sorcellerie dans certaines cultures. Donc voilà, enfin, tout ça, de connaître en fait les secrets de certaines sourates, d'avoir une relation avec le Coran comme ça, rend la vie beaucoup plus spirituelle et agréable. Et ça peut nous ouvrir énormément de portes parce que le Coran, Inch'Allah, si on le lit régulièrement, si on a une relation avec lui, il sera notre intercesseur le jour du jugement. Il sera notre lumière dans le barzakh. Il peut nous apporter énormément dans ce monde et dans l'autre. Dans ce monde, la shifa, la guérison, la lumière, les doigts exaucés, énormément de choses, subhanallah. Et c'est tellement agréable, en fait, de commencer à lire l'arabe, par exemple, avec difficulté, grande difficulté, et de voir qu'au fil des années, on s'améliore énormément et qu'on arrive à terminer le Coran en quelques semaines, par exemple. Ben c'est vraiment ça fait tellement plaisir, enfin, on est tellement fiers de soi, on remercie Allah pour cet énorme cadeau. Ensuite, dans le Coran, il y a énormément de doigts. Donc, c'est aussi une opportunité de faire des doigts tout le temps, en faire régulièrement, de dire Amin après les doigts qui sont mentionnés dans le Coran. Parce que le Coran, en fait, c'est une conversation avec Allah. Allah nous parle à travers le Coran et nous, on répond. Nous, on lui répond en disant Amin, en pleurant si ça nous touche, même si on ne comprend pas, mais juste la récitation, en fait. Des fois, on dit des choses et on se met à pleurer, on récite quelque chose, on se met à pleurer, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est parce que le Coran est très, très puissant, en fait, subhanallah. Ensuite, après le lever du soleil, à peu près 16 minutes après le lever du soleil, il y a l'entrée de Salat Duha, la prière de Duha que l'on peut prier juste jusqu'à avant le zénith, donc avant la prière du Dhuhr. Il y en a qui disent qu'il faut la prier maximum 20 minutes avant l'entrée du Dhuhr. Parce qu'on ne sait pas exactement quand est le zénith, mais d'autres disent que non, on peut prier jusqu'à avant le dhuhr, mais c'est mieux quand même de s'arrêter au moins, d'essayer de ne pas dépasser les 20 minutes ou 30 minutes avant l'entrée du dhuhr pour être sûr en fait. Et la salat ad-duha, c'est la prière des provisions, donc elle apporte beaucoup dans la vie du musulman. Salat ad-duha, pourquoi je la mentionne? Parce qu'on parle de dhikr et de Qur'an. Parce que la salat est une forme de dhikr aussi. Tout ça, c'est du dhikr en fait. Ensuite, pour les adhkar, après la prière du asr, il y a surat al-waqi'a qui protège contre les calamités financières. Donc, c'est aussi quand on prie la salat, après la salat, on peut réciter surat al-waqi'a. Après, on peut la réciter comme on veut, hein. En faisant d'autres choses, hein, ce qu'on fait dans la maison, en étant dehors, on n'est pas obligé d'être assis et de réciter, pour ceux qui ne la connaissent pas par cœur, bah, qu'ils la lisent depuis le mushaf, le téléphone ou un livre de prière. Et ceux qui la connaissent par cœur, bah, ils peuvent la réciter où ils veulent. Après, ceux qui ne peuvent pas lire encore, qui l'écoutent et mettent l'intention qu'ils la récitent, en prenant bien sûr les dispositions pour pouvoir la réciter eux-mêmes un jour, c'est-à-dire en prenant des cours de lecture et tout ça. Et Inch'Allah, s'ils mettent cette intention, Allah leur donnera la récompense de la récitation, même s'ils ne l'ont pas vraiment récité, mais ils ont été assidus dans l'écoute et ils ont fait l'effort d'apprendre à lire. Inch'Allah, Ya Rab. Après le Maghrib, il y a les dhikrs qui sont les awrat qui sont très importantes aussi. Nous, on récite le ratib de l'imam al-Haddad. Et c'est intéressant parce que dans la classe à Tarim, quand il nous avait la classe du ratib de l'imam al-Haddad, quand il nous avait expliqué l'histoire de l'imam al-Haddad, le ratib, il nous avait dit en fait qu'il y avait des gens dans un village qui s'étaient plaints à l'imam al-Haddad et qui lui avaient dit que les djinns volaient leurs enfants. Et l'imam al-Haddad a apparemment écrit ce ratib pour les protéger. Et quand ils se sont mis à le réciter après le Maghrib, c'est fini en fait. Ils n'ont plus de problème. Et après, ça s'est étendu à tout le monde. Tout le monde a. Elle s'est mise à réciter le ratib après le Maghrib. Donc il y a le ratib de l'imam al-Haddad et ou, donc on peut faire les deux ou juste un, ratib de l'imam al-Attas. Et là c'est pareil en fait, dans ce ratib c'est des doigts, c'est des askar. Le nom d'Allah, surat al-Nas, surat al-Falaq, enfin il y a tout ce qui nous protège, ayatul kursi, tout ça. Pareil, ça nous protège des calamités, du mal des gens, des djinns, ça nous donne une protection avant de dormir, parce que la nuit on est très vulnérable. Et c'était la pratique des compagnons, radhiyallahu anhum, de faire des ibadat entre les deux Aïcha. Et les deux Aïcha, c'est le Maghrib et l'Aïcha. C'est-à-dire qu'ils priaient Salat al-Maghrib, ils priaient les Sunan, et ensuite ils avaient ils faisaient des askar. Jusqu'à ce que le temps du Aïcha entre. Et là, ils prient l'Aïcha et puis ils allaient se coucher. Enfin, c'était leur routine. Donc, ce temps entre le Maghrib et l'Aïcha est spécial. c'est bien si on peut de l'utiliser à lire le Coran et à faire ses adhkars, à prier, enfin, pour être, voilà. Comme ça, après, quand Aïcha rentre, le temps du Aïcha entre, on prie et c'est fait. Alhamdoulilah, même si on va pas se coucher tout de suite, voilà, on a fait ce qu'il fallait faire. Parce que plus on attend pour la prière du Aïcha, parce qu'on est vulnérable le soir. Et le shaitan, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se disputent le soir. Il y a beaucoup de choses qui arrivent le soir, beaucoup de délits, de meurtres et tout ça, parce qu'on est très vulnérable et le shaitan joue très facilement avec nous. Si on procrastine avec la prière du Isha, on risque de la prier très très tard et du coup de manquer des heures de sommeil ou carrément de ne pas la prier. Donc c'est bien d'instaurer une routine comme ça, voilà, on est sûr, on prie la prière à l'heure. Après l'Aïcha, c'est bien de lire Suratul Mulk, qui protège du châtiment de la tombe. Donc là, pareil, hein, donc on peut la lire directement après la prière ou la lire avant d'aller se coucher, par exemple. C'est aussi une sourate qui est extrêmement importante. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les askars avant de dormir. Alors là, il y en a plein, plein, plein. Donc je vais pas tout dire. Ceux qui ont leur routine, qu'ils gardent leur routine. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été rapportées à ce sujet. Donc il y a les Mu'awwadhatan, qui veut dire Suratul Falaq, Suratul Nas. Il y a aussi Ayatul Kursi. Il y a le tasbih de Fatima Zahra, radiallahu anha, Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, 34 fois. Et elle le faisait elle le faisait parce qu'à un moment de sa vie, elle était très fatiguée. Elle avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir un esclave ou un servant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit non, récite ce tasbih. Et il lui avait dit, ça va te donner la force de faire tout ce que tu as envie, tout ce que tu as besoin de faire le lendemain. Donc ça, c'est aussi bien de le faire. Et ensuite, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y en a qui récitent Suratul Kafirun. Il y en a qui... voilà, il y a plusieurs choses à dire. Et très, très, très important de dormir avec le wudu. Il faut dormir avec le wudu parce que c'est une protection et c'est de la lumière, le wudu. Et d'une manière générale, dans la journée, il est bien d'avoir le wudu le plus possible, en fait. Si on perd son wudu, c'est bien de le refaire pour être toujours protégé et en état... de prière en fait, dans un état où on peut prier par exemple. Après, pour ceux qui veulent, mais c'est en plus, il y a aussi les daskars de la nuit du vendredi. Nous, celles qu'on faisait à Tarim étaient très longues. Elles comprenaient les surahs Ad-Dukhan, Sajda, Suratul Kahf et beaucoup d'autres choses. Donc, ceux qui veulent, ils peuvent aussi trouver ça dans le Khulasa. Qui est le livre d'Askar que l'on utilise à Tarim mais qui a été traduit en anglais. Bien sûr, le vendredi, il y a Suratul Kahf à réciter. Nous, on le récitait deux fois, la nuit du vendredi et la journée du vendredi. Mais si on le récite une fois, ça suffit, bien sûr. Suratul Kahf, les salawat aussi le vendredi, les doigts, bien sûr, qui sont mustajab. Il est bien aussi d'avoir une routine. En ce qui concerne réciter la bourda ou une hadra, parce que tout ça c'est aussi du dhikr. Dans la bourda, la hadra, il y a des salawats, il y a du dhikr, il y a des doigts, il y a des répétitions du nom d'Allah. Tout ça c'est du dhikr. Donc on peut aussi faire ça. Ensuite, un petit rappel, durant l'adhan, il est important de ne pas parler. Même si c'est un adhan qu'on a sur le téléphone, voilà. Parce qu'il y a un hadith qui dit que celui qui parle quand l'adhan est récité, il finira mal. Donc c'est important d'éviter de parler durant l'adhan, par respect pour Allah, par respect pour l'appel à la prière. Et parce que c'est tellement agréable, voilà, d'avoir le rappel de nos obligations. Et c'est Allah qui nous appelle. Donc voilà. Éviter de parler et bien sûr réciter le doigt après l'adhan qui est aussi mentionné dans la citadelle du musulman. Ensuite, dans mon livre, les perles du ciel de Tarim, à la page 271 de la seconde édition, je mentionne ce que je viens de vous dire en fait, pas en détail, mais je mentionne aussi les azkars, je mentionne aussi certaines sourates à réciter après certains temps de la journée. Donc pour celles et ceux qui ont le livre, vous pouvez aussi retourner au livre et peut-être voilà surligner, vous faire un planning, une routine avec ce qui est écrit dans le livre. Ensuite, nous sommes entrés dans le mois du Ramadan. Nous sommes dans les débuts. Donc, comme je l'avais dit au départ, les 10 premiers jours, c'est la rahma qui descend. Ensuite, les 10 jours suivants, c'est le pardon. Et à la fin, dans les 10 derniers jours, Allah sauve des âmes du feu. Et il accorde son salut à qui il veut. Donc, voilà, chaque période a sa spécificité. À nous, vraiment, d'en profiter le maximum. Durant Ramadan, on est censé manger moins et on est censé maigrir, ce qui est logique. Donc, on est censé aussi acheter moins de nourriture et faire des économies à ce niveau-là. Donc, c'est une bonne idée d'économiser en fait cet argent qu'on n'a pas utilisé pour la nourriture et de l'envoyer à ceux qui n'ont pas à manger ou qui ont très peu à manger ou qui ont mal à manger. Il y a aussi des gens qui souffrent de malnutrition, même s'ils mangent en fait tous les jours, mais ils mangent mal parce qu'ils n'ont pas l'argent en fait pour s'acheter la bonne nourriture, la vraie nourriture. Et du coup, voilà, ils souffrent, ils ont beaucoup de problèmes de santé. Il est évident que le musulman a la priorité. Ceux qui ont la priorité, ce sont nos proches, ensuite les gens autour de nous, dans notre région, dans notre pays et tout ça, et après ça s'élargit aux gens ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner aux non-musulmans, au contraire, on est censé être une bénédiction pour tout le monde. Donc si vous connaissez des non-musulmans dans le besoin, surtout des gens qui ont besoin de nourriture ou de bonne nourriture, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à leur donner une sadaqa, la somme que, voilà, n'hésitons pas à leur donner la somme que nous avons économisée, pour qu'eux aussi, ils puissent apprécier, subhanallah, la lumière et les barakat de Ramadan. Subhanallah. Il y a au Brésil, bien malheureusement, des gens qui souffrent de famine, en fait. Ils sont vraiment dans des circonstances très difficiles. Il y a des gens qui mangent, mais très très mal, et du coup, ça leur crée énormément de problèmes. Et il y a des gens qui ne mangent pas plus qu'un repas par jour et ils ont des enfants à nourrir. Enfin, c'est vraiment triste quand on voit ce genre de choses. Surtout que, machallah, ce sont des gens très religieux qui espèrent beaucoup en Dieu. Donc, nous sommes des ambassadeurs de l'islam où que nous soyons. Et si nous pouvons aider des gens qui sont dans le besoin, n'hésitons pas. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم العفو منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته